Voici une question sérieuse qui requiert la réponse de Dieu. Est-ce que tout être humain devra passer en jugement devant Dieu un jour? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse dont nous avons tous besoin, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Qu'on soit chrétien ou non, je crois qu'on a tous grandement besoin de l'enseignement qui va suivre les questions que voici. Pouvons-nous juger les actions de Dieu? Est-ce que la désobéissance envers Dieu peut entraîner des conséquences graves? Y a-t-il des chrétiens qui essaient de faire passer leur désobéissance pour des projets pieux? Est-il facile pour un être humain, chrétien ou non, de chercher à justifier sa conduite quand il est dans l'erreur? Sommes-nous tous portés à blâmer les autres pour nos erreurs? Pourquoi Dieu a-t-il rejeté le roi Saül? Qu'est-ce qui fait de nous des amis de Dieu? Pouvons-nous plaire à tout le monde et plaire à Dieu en même temps? Est-ce que Dieu jugera tout le monde un jour? Restez avec nous. On va avoir la réponse à chacune de ces questions dans quelques instants. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit. Demandons à Dieu qu'il nous aide à saisir l'importance de ce qu'il va nous dire. Prions. Ô Seigneur, oui, on veut saisir l'importance de tout ce que tu vas nous dire par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Aide-nous à être bien attentifs, à ne pas être distraits par notre quotidien ou par quelque élément autour de nous. On veut être concentrés sur toi, sur ta parole. Enseigne-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu Saül prendre le crédit pour deux victoires. Deux victoires militaires obtenues grâce au courage et à la foi de son fils Jonathan. De plus, il s'est approprié les fonctions de prêtre en offrant des sacrifices, ce qui ne lui était pas permis de faire. En effet, seuls les Lévites pouvaient faire le service dans le tabernacle et offrir des sacrifices. Nous avons commencé à voir Saül sous son véritable jour. Aujourd'hui, nous allons voir que Saül ne se préoccupait pas d'accomplir la volonté de Dieu, mais qu'il se rebellait contre celle-ci. De plus, il demandera à Samuel de l'aider à masquer le fait que Dieu l'a rejeté comme roi d'Israël. Nous allons aussi remarquer que Samuel aimait Saül et qu'il fut peiné de son rejet par Dieu. Dans cette émission, Dieu va demander à Israël d'exterminer le peuple d'Amalek et son roi Agag. Pourquoi Dieu prononce-t-il une condamnation aussi sévère sur ce peuple? Nous trouvons la réponse dans le livre d'Esther. Aman, qui a presque réussi à faire massacrer le peuple d'Israël, était un Amalécite. Dieu connaissait le cœur de ce peuple, qui fut manifesté une première fois alors qu'il a attaqué Israël sans raison et sans provocation peu de temps après que les Hébreux sortirent d'Égypte. Cette histoire, nous l'avons dans Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Alors que nous poursuivons notre étude de la vie de Saül, nous voyons qu'il est un homme qui marche selon les voies de Satan. Je ne pense pas que nous soyons injustes envers lui en affirmant une telle chose. Personnellement, je ne pense pas qu'il était sauvé, et je crois qu'il était un hypocrite. Il s'est posé en homme de Dieu, mais il n'en fut jamais un. Il a toujours nié ses fautes, surtout lorsqu'il a épargné Agag. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu a ses raisons pour agir. Nous n'avons pas à le juger. Cet ordre semble épouvantable si vous ne connaissez pas l'histoire d'Amalek. Moïse, qui était à la tête d'Israël lorsque les événements se produisirent, rappela l'épisode pour la nouvelle génération dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19, dont voici la lecture. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Si Dieu avait permis à ce peuple de vivre, il aurait probablement causé plus de troubles que nous pourrions imaginer. Il semble que Saül ait épargné quelques personnes, et lorsque nous lisons le livre d'Esther, nous rencontrerons un de leurs descendants, Aman. Il tenta d'exterminer le peuple d'Israël, et il aurait probablement réussi sans une intervention de Dieu. Lorsque nous examinons la question du point de vue divin, nous pouvons comprendre l'ordre de détruire Amalek. Je vous dis franchement que puisque vous et moi, nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas à prendre de décision pour lui, donc nous n'avons pas à juger ses actions. Il est souverain sur toutes choses. À lui, le dernier mot. Faisons-lui confiance. Versets 4 à 6. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül rassembla une armée et en fit la revue. Il marcha jusqu'à la ville d'Amalek, et il donna aux Kéniens le temps de se retirer de la ville et de se séparer des Amalécites avant de les détruire. Les Kéniens sont les descendants du beau-père de Moïse. Ce renseignement se trouve dans le livre des Juges, chapitre 1, verset 16, ainsi que chapitre 4, verset 11 à 17. Aucune nation païenne n'aurait fait un tel geste de miséricorde à cette époque. Seul Dieu a pu agir ainsi. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Jusqu'ici, Saül suit parfaitement les instructions de Dieu. Poursuivons, versets 8 et 9. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Saül a pensé que ce serait un gaspillage que de détruire les meilleures bêtes. De plus, il a épargné Agag, le roi des Amalécites. Saül n'avait pas le droit de l'épargner, pas plus qu'il avait le droit d'épargner les plus humbles parmi le peuple. La nation d'Amalek était méchante, et son roi, plus que tout autre, aurait dû être jugé et exécuté à ce moment-là. De plus, Saül n'avait pas le droit de conserver les meilleures vaches. Cela donne l'impression qu'il a fait ce massacre dans le but de s'enrichir en pillant les biens d'Amalek. Dieu avait interdit de garder quoi que ce soit. Les Israélites exerçait un jugement à la demande de Dieu et non pas pour s'enrichir. Et toi, pour qui fais-tu tel ou tel acte? Pour toi ou pour Dieu? Versets 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Non seulement le peuple choisit-il Saül, mais Samuel en fit autant. Le prophète aimait Saül, et il voulait que celui-ci devienne un bon roi. Je pense qu'il souhaitait davantage le succès de Saül que celui de David. Cependant, Dieu a rejeté Saül, et Samuel, qui sert Dieu, doit suivre les instructions de Dieu. Saül a désobéi à Dieu, et il devra faire face à un jugement. Versets 12 et 13. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Saül affirme qu'il a obéi à Dieu. Mais notez la réponse de Samuel. Versets 14 et 15. Samuel dit, « Qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Cherchons-nous à donner une apparence pieuse à notre désobéissance? Notez le langage de Saül alors qu'il tente de camoufler sa désobéissance. Selon Saül, il avait une raison pieuse pour épargner les meilleures bêtes. Il voulait de belles bêtes afin de les sacrifier à Dieu. Bien entendu, c'était une tentative pour maquiller sa désobéissance en action pieuse. Nous trouvons la même hypocrisie dans notre culture contemporaine. Je trouve assez amusant lorsqu'un fabricant de boissons alcoolisées ou de cigarettes fait un don généreux pour l'aménagement d'un parc public ou fait une levée de fonds pour venir en aide à ceux qui ont le cancer du poumon. C'est une générosité qui masque l'intention réelle de ces fabricants, soit que tous soient accros à ces produits. Des bidoux. « Emmenez-en de l'argent. » De nombreux chrétiens essaient de faire passer leur désobéissance pour un projet pieux. Nous sommes tous plus ou moins coupables de cela. J. Vernon McGee, l'auteur des textes que nous traduisons et adaptons, racontait que lorsqu'il a débuté dans le ministère, alors qu'il était un jeune homme, il conduisait une vieille automobile. Le jeune pasteur en était heureux, et il aimait la conduire, quoique la congrégation fût embarrassée du fait qu'il conduisait une vieille bagnole. Un jour, il a rencontré une fille qu'il trouvait de son goût, et il a commencé à prier pour une nouvelle automobile. Dans sa prière, il disait à Dieu qu'il avait besoin du véhicule pour visiter ses paroissiens. Honnêtement, a raconté M. McGee, ce n'est pas le ministère des visites qui m'inquiétait. Je désirais une belle voiture pour impressionner la jeune dame. Il est très facile pour un être humain, chrétien ou non, de justifier sa conduite. Lorsque Samuel confronta Saül avec sa désobéissance, notez qu'il blâma le peuple. Il a dit, « Le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. » Cependant, le texte précise que c'est Saül et le peuple qui épargnèrent Agag et les meilleures bêtes. Saül était le roi, donc le grand responsable. Revenons à notre texte. 1 Samuel, chapitre 15, versets 20 et 21. Saül répondit à Samuel, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Blâmons-nous les autres pour nos erreurs? Saül affirme qu'il a obéi à Dieu. Notez qu'il ne dit pas « mon Dieu » ou « notre Dieu », mais « ton Dieu », le Dieu de Samuel. Il refuse de reconnaître sa désobéissance et il rejette tout blâme personnel. Versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Voici, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ces deux versets sont souvent cités. Dieu rejette le roi Saül à cause de sa désobéissance. C'est un avertissement pour tous ceux d'entre nous qui se disent enfants de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu si nous sommes des êtres obéissants. Beaucoup de personnes approchent le Seigneur Jésus d'une façon informelle, comme s'il était un ami ou un copain. De nombreuses chansons contemporaines parlent de Jésus comme d'un ami. Il faut être prudent avec une telle approche. Que voulez-vous dire lorsque vous affirmez que Jésus est votre ami? En fait, vous essayez, bien souvent, d'abaisser le Seigneur Jésus à votre niveau. Si vous dites que le premier ministre est votre ami, vous le placez à votre niveau. Mais si le premier ministre annonce que je suis son ami, alors il m'élève à son niveau. Lorsque je parle de Jésus comme étant mon ami, je ne parle pas le même langage que la Bible. Le Seigneur a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 14. Obéissez-vous, Seigneur Jésus? Comment pouvez-vous l'appeler votre ami si vous ne lui obéissez pas? Lui désobéir est aussi grave que pratiquer la sorcellerie et même l'idolâtrie. C'est de la rébellion contre Dieu. Lorsque vous rencontrez une personne totalement désobéissante à Dieu, vous êtes presque obligé de conclure qu'elle n'est pas sauvée. Je ne dis pas que les œuvres contribuent au salut, mais j'affirme que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous connaissez le Seigneur Jésus intimement, vous lui obéirez. De plus, le Seigneur Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean, chapitre 14, verset 15. Être un enfant de Dieu, c'est connaître le Seigneur Jésus personnellement. C'est ce qui distingue le christianisme des autres religions. Tu peux être bouddhiste sans connaître Bouddha. Tu peux être un disciple de Confucius sans le connaître. Tu peux être membre d'une religion sans en connaître le fondateur. Cependant, il est impossible d'être chrétien sans connaître le Seigneur Jésus. Le connaître, c'est la vie éternelle. Jean, chapitre 17, verset 3. Revenons à notre texte, 1 Samuel, chapitre 15, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Essayons-nous de plaire à tous ou de plaire à Dieu? » Voyez ce qui motivait Saül. Il voulait plaire au peuple, donc il lui accordait ses désirs. Bien des personnes sont ainsi, ne voulant déplaire à personne. Ils veulent plaire à tous. Est-ce possible? Des prédicateurs essaient de plaire à tous, de plaire à la foule, afin d'y retirer gloire. C'est aussi le cas de Saül. Et voilà qu'après une rencontre avec le serviteur de l'Éternel, Samuel, Saül confesse son péché, mais ce n'est pas une véritable repentance. Il n'est pas sincère. Versets 25 à 29. « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu a fait monter Saül sur le trône, mais à cause de son péché, il va l'écarter de la royauté. Il semble que Dieu ait changé d'idée, mais en fait ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Dieu qui a changé, mais Saül. Saül a péché, et Dieu va agir en conséquence. » Versets 30 et 31. Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. La repentance de Saül n'est pas sincère. Elle n'est pas véritable. Il veut simplement sauver la face devant le peuple. Il ne veut pas qu'on sache que Dieu l'a rejeté. Il voulait se repentir, mais ne pas avoir à subir les conséquences de sa désobéissance. Saül est un hypocrite. Versets 32 et 33. Puis Samuel dit, « Emmène-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel à Gilgal. Dieu jugera le monde, chers amis. Ceci peut nous sembler sévère, mais Dieu est Dieu. Il est un Dieu de jugement, et il jugera les mauvaises actions. Je suis heureux parce que Dieu jugera le monde. Je loue Dieu de ce que personne ne s'en tirera pour ses mauvaises actions. Il se peut que certaines personnes puissantes pensent s'en tirer malgré leur malhonnêteté, leur meurtre, leur adultère, mais ce ne sera pas le cas. Dieu nous jugera tous. Personne ne s'en tirera, et nous devons l'affirmer clairement de nos jours. C'est ce que nous lisons en toutes lettres dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 5 et 6. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Samuel exécuta le méchant roi que Dieu a condamné. Justice est faite. Versets 34 et 35. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Lorsque la Bible dit que Dieu se repent, il semble qu'il a changé d'idée sur un sujet, mais il n'en est pas ainsi, chers amis. Dieu a toujours dit que si Saül ne marchait pas dans ses voies, il lui enlèverait le trône d'Israël. Saül a péché, et Dieu a agi selon sa parole. Chers amis, prochaine émission 1 Samuel, chapitre 16 et chapitre 17.
Merci beaucoup, Régent. On a pu voir aujourd'hui à quel point il est important d'obéir à Dieu en toutes choses. Régent a mentionné ce que Jésus a dit à ce sujet. Il a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » J'en conclus que chaque fois que je désobéis à Dieu, c'est un manque d'amour de ma part. Ça me fait tellement de peine quand je réalise que j'ai désobéi à Dieu dans un domaine ou dans un autre. Mais chose certaine, dès que je m'en aperçois, je m'en repens. Je lui demande pardon et je suis certaine de recevoir ce pardon grâce au précieux sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour moi. Depuis le nombre d'années où je marche avec Dieu, j'ai connu toutes sortes de gens qui cherchaient à faire des grandes choses, soi-disant pour Dieu, et qui ont graduellement quitté les voies de Dieu. Et tout ce qu'ils avaient à faire pour demeurer avec Dieu, c'était de lui obéir comme un petit enfant qui obéit à son père, simplement parce qu'il l'aime. Les vrais amis de Jésus sont ceux qui lui obéissent. Dans l'Évangile de Jean, au 15e chapitre, au verset 14, Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ça m'irrite au plus haut point quand je parle de l'amour de Dieu à des gens qui ne le connaissent pas, mais qui toutefois l'appellent « mon chum en haut ». Quel manque de respect envers le Dieu trois fois saint, envers ce Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, es-tu de ces gens qui appellent Dieu leur chum? Eh bien, sache que même si tu blesses sa sainteté, même si tu manques de respect envers lui, il est prêt à te pardonner. L'apôtre Paul a dit dans sa première épître à Timothée au premier chapitre, au verset 15 et 16, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Mon ami, le Seigneur est prêt à te pardonner si, tout comme Paul, tu es prêt à avouer que tu es un pécheur. C'est le premier pas vers le salut. Repens-toi. Avoue à Dieu que tu as désobéi à ses lois, que tu as manqué de respect envers lui, que tu as péché contre lui. Demande-lui pardon. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui maintenant. Ses bras sont ouverts devant toi. Il est prêt à t'accueillir si tu es prêt à mettre ton orgueil de côté, à t'avouer incapable de te sauver toi-même. Jésus a tout payé à la croix pour toi. Lui qui est le seul à être venu sur la terre sans jamais pécher. Jésus est mort. Il a pris la honte de ton péché sur la croix. Mais le troisième jour, il est ressuscité glorieux et maintenant, il t'offre le don gratuit de la vie éternelle. Reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur maintenant. Et tout comme l'apôtre Paul, tu pourras à ton tour servir d'exemple à d'autres qui croiront en Jésus pour la vie éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mon ami, n'attends pas demain. Il sera peut-être trop tard. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Jésus t'appelle en ce moment.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.